Il est 9h24 minutes. Eh bien, l'escalade se poursuit entre Washington et Téhéran, alors que se déroulaient hier les funérailles du général Qassem Soleimani, qui a été tué par une frappe américaine à Bagdad la semaine dernière. Des dizaines de milliers d'Iraniens ont manifesté en scandant à mort l'Amérique, en brûlant des drapeaux américains. Et ce qu'on apprenait, c'est qu'au cours des dernières heures, entre autres, le Parlement iranien a adopté une loi qui classe toutes les forces armées américaines comme étant terroristes. Alors, c'est encore une fois un jalon de plus, si on veut, vers la hausse des tensions. Et Jocelyn Coulon est chercheur au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, le CIRIUM. Bonjour, M. Coulon.
Bonjour.
Et j'ai également avec nous en ligne Charles-Philippe David, qui est président de l'Observatoire des États-Unis et fondateur de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Charles-Philippe.
Bonjour, M. Lagroix. Bonjour, messieurs.
Alors, commençons donc, Jocelyn, avec la hausse de tension qu'on note. Là, on a vu, bien sûr, cette nouvelle loi qui vient d'être adoptée par l'Iran, qui déclare toute l'armée américaine comme étant terroriste. C'est un autre jalon là dans l'escalade de la tension.
Oui, vous avez remarqué que, d'abord, on a commencé par la rhétorique, c'est-à-dire les slogans employés par les foules, mais aussi les propos très vengeurs des dirigeants iraniens.
Ouais.
Maintenant, on est rendu à adopter une loi, mais on n'est pas encore rendu à poser des gestes précis contre ces cibles ou contre les intérêts américains ou autres, parce que les alliés peuvent être aussi dans la ligne de mire de l'Iran. Alors, on n'est pas rendu là encore et il y a de nombreux spécialistes de l'Iran qui vous diront que les Iraniens vont choisir le moment et le lieu de leur attaque. Ça pourra prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois.
Bon, Monsieur David, est-ce que vous voyez dans une hausse de la vigilance des États-Unis là? On voyait entre autres que la marine américaine se prépare à d'éventuelles représailles contre elle, n'est-ce pas?
Alors, d'abord, Jocelyn a complètement raison. L'Iran va choisir le moment venu comment l'Iran va rétorquer. Je pense que c'est pas une question de savoir si, mais une question de savoir quand et comment. Et là, tout le monde suppute et ils vont d'hypothèses, toutes les unes plus inventives que les autres, imaginatives. Je voudrais déjà, d'ailleurs, que l'Iran a effectué une sorte de réplique en mettant en cause encore un peu plus ou scellant le deuil de l'accord nucléaire de 2015, déchiré par Donald Trump en 2018, en procédant à l'enrichissement, en tout cas l'autorisation d'aller au-delà des limites permises de l'enrichissement de l'uranium. Donc, pour faire simple et clair, l'Iran se garde toujours, je pense, l'option peut-être de développer l'arme nucléaire.
Ouais.
Donc ça reste quelque chose qui reste sur la table. Mais pour les États-Unis, c'est bon. Écoutez, nous sommes dans comme d'habitude avec Donald Trump, à la fois au champ gauche et au champ droit, et on voyage entre les deux champs rapidement tous les jours. A-t-il déjà en tête clairement une représaille bien préparée? Est-ce que les forces armées américaines sont prêtes pour un plan de guerre, sans doute, mais je pense qu'il n'y a pas un appétit, en tout cas énorme, au Pentagone pour donner suite à l'idée folle de Donald Trump d'attaquer 52 cibles civiles, culturelles ou religieuses en Iran. Donc, là aussi, on est en attente de savoir un peu, avoir plus de précision sur les options militaires, mais c'est clair que l'armée américaine est sur les dents. Vous avez vu déjà les soldats américains en Irak retraités dans leur base. On s'attend à quelque chose, c'est sûr, mais comme le dit très bien Jocelyn, il va falloir être patient, il va falloir être prudent dans nos analyses. On ne le sait pas.
Bon, comment c'est reçu, Jocelyn Coulon, ailleurs au Moyen-Orient, cette hausse de tension? C'est que l'Iran essaie de se positionner comme étant la puissance, si on veut, dans cette partie du monde, mais c'est reçu comment dans les pays autour? Est-ce qu'il y a des risques que ça s'étende à d'autres pays?
Écoutez, l'Iran domine certains de ces pays-là, que ce soit l'Irak, la Syrie, certainement le Liban. Le Hezbollah est en coalition avec certains éléments, certains partis politiques au Liban. L'Iran a aussi une grande influence au Yémen. Alors, déjà, les Iraniens retrouvent progressivement l'influence qu'ils avaient avant la chute de la monarchie en 1979,
ouais.
Monarchie qui était alignée sur les États-Unis. Et à l'époque, les États-Unis étaient très heureux que l'Iran joue le rôle de gendarme régional. Alors, l'Iran s'est toujours vu comme une puissance régionale, mais a été bloqué dans ses aspirations par, évidemment, les États-Unis, l'Arabie saoudite et Israël, pour toutes sortes de raisons. Et aujourd'hui, elle gagne du terrain, d'ailleurs par la faute des États-Unis qui ont envahi l'Irak en 2003
ouais.
et qui ont affaibli ce rempart, si on peut s'exprimer ainsi, qu'était le régime irakien. Et pour les autres, ben, vous n'entendez pas beaucoup de réactions de la part de l'Arabie saoudite ou de l'Égypte ou d'autres pays qui sont en conflit avec l'Iran. Je pense qu'ils gardent un profil assez bas. Mais en même temps, j'imagine qu'ils ne sont pas mécontents de ce qui est arrivé au général Soleimani.
Oui, OK. Donc,
permettez-moi d'ajouter, parce que je pense que Jocelyn évoque des choses vraiment très importantes. Je pense que l'Arabie saoudite est sur les dents. Je pense qu'Israël est sur les dents.
Ouais.
Dans les deux cas, si on n'entend pas parler d'eux, c'est pas parce qu'ils sont très rassurés non plus, parce que sont les deux aux premières loges de toute réaction iranienne, surtout l'Arabie saoudite, parce que l'Arabie saoudite a déjà fait les frais de riposte iranienne, comme tout le monde le sait, depuis plusieurs mois, plusieurs années.
Ouais.
Donc, il est clair que l'Arabie saoudite ne voit pas d'un très bon œil nécessairement, complètement, l'incertitude qui prévaut actuellement. Mais je voudrais revenir aussi sur quelque chose de très important qu'a dit Jocelyn. L'Iran, c'est un grand pays. L'Iran aussi est très, très, très divisé. Et jusqu'à récemment même, il y avait des manifestations à Téhéran qui ont entraîné plusieurs milliers de personnes à manifester. Il y a eu des arrestations. Il y a même eu des morts. On ne sait pas le nombre exact. On pense que c'est plusieurs centaines. Donc, il y a des divisions internes en Iran. Quoi de mieux que le grand Satan américain pour mettre un fin presque à ces manifestations et pour unifier le peuple iranien. J'ai bien peur que la décision prise par Trump, sur le plan tactique, certainement élimine quelqu'un qui était un ennemi des États-Unis, ça y a pas de doute.
Ouais.
Le général Soleimani n'était vraiment pas un ami des Américains. Mais sur le plan politique et stratégique, moi personnellement, je ne suis pas sûr de comprendre quel est le plan de match américain. Parce qu'à long terme, si l'idée c'est de réunifier le peuple iranien et solidifier le régime contre les États-Unis, il me semble que la pire chose à faire pour provoquer cela, c'était justement de tuer Soleimani.
Ouais, mais bon, parce que ça vient renforcer le régime qui était affaibli depuis quelques mois.
Effectivement, ouais. Renforcer le régime, mais vous savez, là, je bascule du côté américain. Il n'y a rien comme l'ennemi iranien aussi pour unifier les Américains. Parce qu'il y a un long contentieux depuis 1979, comme tout le monde
la
le
prise
sait.
La prise d'otages, les 52 otages américains, etc. Ouais.
Exactement, d'où le chiffre choisi de 52, d'ailleurs, par Donald Trump pour dire de manière très provocante, j'ai un plan qui est prêt, je vais attaquer 52 cibles en Iran. Donc, le pire dans tout ça, là, c'est que ça prendrait une allumette pour allumer, évidemment, le brasier. Et attention, parce qu'entre l'Iran et les États-Unis, c'est dans une région stratégique extrêmement explosive.
Bon. Vous avez parlé, Charles-Philippe David, tout à l'heure, de la réticence du Pentagone à suivre Donald Trump dans son espèce de rhétorique de guerre. Là. Est-ce que ça explique le cafouillage de cette fameuse lettre qui a été envoyée, qui disait, on veut retirer nos troupes, et finalement, non, on ne les retire plus, etc. Est-ce que ça pourrait expliquer en partie ce cafouillage-là?
Ça, je ne suis pas sûr. Mais ça me semble une bourde. Ça, c'est cette lettre qui a été publiée hier et tout de suite démentie par le président du comité des chefs d'état-major américain, Mark Milley. Mais je peux vous dire, je ne le sais pas, mais de ce qu'on lit, les plus réticents à approuver, l'assassinat de Soleimani étaient probablement les hauts gradés militaires. Les plus partisans semblent avoir été le secrétaire d'État Mike Pompeo et le vice-président Mike Pence. Alors, s'il y a eu réticence militaire, c'est parce qu'ils savent très bien. Ils n'aiment pas Soleimani, ils n'aiment pas l'Iran, j'en suis sûr, mais ils connaissent les conséquences pour leurs soldats.
Ouais.
Et c'est eux qui sont au front si jamais il y a une représailles iranienne. Mais Trump, parmi les options, a choisi celle, apparemment, que tout le monde se disait il ne choisirait jamais. C'est du moins, si on en croit le rapport du New York Times, ce qui se serait passé.
Ouais.
Donc, vous voyez, cette décision tient un peu de choses. Trump a vu les images le 31 décembre qui se déroulait en Irak de l'attaque sur l'ambassade. Il n'a pas aimé ce qu'il a vu. Il s'est rappelé de Benghazi en 2012. Il s'est rappelé de la crise des otages de 1979. Et il a dit, pardonnez-moi l'anglicisme, « not on my watch
ouais. ».
Et a approuvé donc cette option qui avait été mise au menu comme pour faire, pour bonifier les autres options, les gens pensant que Trump penserait, adopterait une autre option que celle, une autre alternative que celle qu'il a choisie. Donc, ça tient un peu de choses. Et ouais. là, nous voilà bien mal pris avec les conséquences ouais. de cet assassinat.
Je voudrais soumettre une hypothèse pour l'avenir, parce que évidemment, j'imagine que les États, particulièrement les Européens, les Russes, les Chinois, cherchent une sortie de crise ici. Et peut-être que le fait d'assassiner le dur du régime peut ouvrir une porte vers une certaine forme d'apaisement et de négociation, parce que les modérés au sein du régime iranien ont toujours favorisé les étapes diplomatiques. Et je rappellerai que la Russie et la Chine ont tenu des manœuvres militaires avec la marine iranienne il y a 2 semaines dans le golfe Persique. Et on voit bien qu'il y a un rapprochement assez serré entre ces 3 pays-là.
Ouais.
Alors, est-ce que la mort de ce dur pourrait permettre à la Russie ou à la Chine de convaincre les Iraniens de prendre une autre voie? Et alors voilà, c'est l'hypothèse que je soumets parce qu'il faut sortir de cette crise-là, absolument. Et c'est peut-être d'autres pays, ceux que je viens de nommer, qui peuvent avoir une certaine influence auprès du gouvernement iranien, parce que oui. c'est pas les Américains qui l'ont.
J'espère que Jocelyn aura raison, sincèrement. parce que personne ne veut d'une guerre dans cette région, ni pour la ouais. planète. Mais j'ai comme l'impression, enfin, la crainte qu'on peut avoir quand on étudie ces phénomènes de guerre, c'est que les adversaires se peinturent dans un coin. Et j'espère que j'ai peu d'espoir, peut-être Jocelyn sera d'accord, que Donald Trump, lui, soit convaincu par personne de devenir une colombe. Ouais. Mais que l'Iran peut-être adopte une position effectivement beaucoup plus mûre que celle du président des États-Unis permettrait une sortie de crise, mais j'ai peur que les deux parties se peinturent dans chacun dans leur coin et que ça devienne peut-être
ouais.
difficile à gérer. C'est alors, j'espère que
c'est vrai que ça semble un duel à mort entre les deux pays depuis 1979. Là. Ça fait 50 ans que ça dure, cette histoire-là. 40 ans, pardon, que ça dure. Mais je rappellerai qu'il y a 3 ans, M. Trump voulait incinérer la Corée du Nord.
C'est vrai.
Et puis, il s'est retrouvé à rencontrer 3 fois son grand ami. Il est en amour avec son grand ami Kim Jong-un. Et donc, je ne dis pas que c'est la même dynamique avec l'Iran, mais...
Mais il change d'humeur facilement. Il change d'humeur facilement, oui.
Comme disait Charles, il est sur le champ gauche, il est sur le champ droit et il court dans les 2 sens.
Ben, espérons que ce sera en fait que cette rhétorique de guerre-là va s'apaiser parce que c'est inquiétant. On entendait, entre autres, certains observateurs dire, est-ce que c'est le début peut-être de ce qu'on pourrait appeler un 3e conflit mondial? On espère que non, mais évidemment.
Pour rassurer les gens qui nous écoutent, là, on est franchement...
On est loin de là, hein?
J'espère et je crois qu'on est loin de là. Cependant, je pense qu'on n'est pas à une surprise près, y compris celle qu'évoque fort justement Jocelyn, que Donald Trump nous dise dans un tweet à 4 heures demain matin... Vous savez, rien ne me ferait plus plaisir que de rencontrer le président Rouhani à Genève et finissons-en et devenons.
Ce qui a failli arriver au
Absolument.
Mois de septembre.
Ouais. Hein,
Emmanuel Macron avait essayé d'établir une médiation et une rencontre et finalement ça avait foiré.
Bon ben espérons que ce sera le cas. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous.
Un grand plaisir.
Merci, au revoir.
Au revoir, Jocelyn Coulon est chercheur au Cerium, alors que Charles-Philippe David est président de l'Observatoire sur les États-Unis, fondateur de la chaire Raoul Dandurand. On s'arrête un tout petit moment. Après, on va vous poser des questions. L'étalement urbain, de plus en plus, vous allez vous installer en périphérie de la grande région de Montréal, de la CMM, entre autres choses. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez y chercher? On en parle après la pause.